enregistrement.
Et je veux dire d'abord ma joie d'être avec vous. Je vous remercie de m'avoir invité. J'ai suivi avec beaucoup de joie les rapports qui disaient les bénédictions que le Seigneur a accordées à votre groupe au fil des mois derniers. Et j'espère que nous passerons un moment fructueux ce soir ensemble. Je voudrais préfacer ce que je vais vous présenter dans la première partie, avant que nous ayons un libre entretien entre nous. Je voudrais préfacer par la lecture de trois versets de l'Écriture sainte dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 11. Je lis les versets 25 à 27. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tel a été ton bienveillant dessein. Tout m'a été remis par mon Père, et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père, personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » C'est sur la relation de Jésus à son Père que vous m'avez demandé de parler. Le sujet est délimité par le titre, l'énoncé, que je viens de rappeler. Il ne s'agit pas de la relation du Fils éternel avec le Père dans la Trinité, de toujours et à toujours, dès avant que le monde fût. Il s'agit de la personne que ce Fils éternel est devenu pour nous dans l'histoire, pour nous et notre salut, qui a pris alors le nom de Jésus. Il s'agit de son existence terrestre, et c'est ce que l'Épître aux Hébreux appelle au chapitre 5 les jours de sa chair étant sa nature humaine. Il s'agit de lui comme vraiment Dieu et vraiment homme, et je voudrais souligner que ce qui nous intéresse spécialement ce soir, c'est ce qui a été par lui vécu dans son humanité. Il est très important pour nous, c'est tout à fait fondamental, de ne pas imaginer en Jésus-Christ un visiteur de l'espace qui se contente de se revêtir de la nature humaine pour un moment, de se déguiser en homme en quelque sorte. Il est devenu homme, vraiment homme, intégralement, et il le demeure à toujours maintenant. Et c'est en particulier à la relation de Jésus-homme à son Père, telle que cette relation s'est déroulée alors qu'il était sur la terre, que nous nous intéressons ce soir. Voilà la délimitation que je tiens d'abord à rappeler. Ensuite, c'est un sujet important. Deuxième point d'introduction. Nous nous disons chrétiens, nous sommes nommés par un nom de référence à Jésus, qui est Christ. Chrétien, bien sûr, cela veut dire chrétien. C'est une simple façon un peu comprimée en français de rendre le mot chrétien. Nous portons son nom dans le nom qui nous désigne. Nous sommes, dans le langage habituel du Nouveau Testament, les disciples de Jésus qui avons décidé de le suivre. Nous aimons Jésus. Nous l'aimons sans l'avoir vu, dit l'apôtre Pierre. Et donc, ce qui concerne Jésus nous intéresse au tout premier chef. Mais nous nous rappelons aussi que Jésus est venu pour révéler le Père, qu'il s'est défini lui-même comme le chemin. Je suis le chemin. Et dans le contexte de l'Évangile de Jean, chapitre 14, il s'agit bien clairement du chemin pour aller au Père. Un chemin, en général, quand même, a pour principal intérêt de mener au but, au-delà de lui-même. Nous pouvons nous rappeler aussi ce que l'apôtre Paul disait aux Corinthiens. Vous êtes à Christ, et tout est à vous en Christ. Hein. Vous êtes à Christ, et le Christ est à Dieu. C'est la fin du chapitre 3 de la première épître aux Corinthiens. Cela veut dire que si nous nous concentrons sur la personne de Jésus, nous ne pouvons le faire avec vérité qu'en considérant sa relation au Père. Si nous effaçons la figure du Père, si nous éclipsons cette figure, nous pervertissons fondamentalement le message de Jésus. Nous remplaçons son rôle authentique par une création de notre imagination qui n'a aucune autorité et finalement aucune valeur. Donc, le sujet de la relation de Jésus à son Père est un sujet de toute première importance. Et puis, c'est un sujet difficile. Sujet difficile, car l'Écriture n'en dit pas beaucoup. En tout cas, pour ce qui concerne les détails, les modalités, comment est-ce qu'il a vécu cela. L'Écriture n'en dit pas beaucoup, or c'est notre seule source fiable. Tout le reste que des gens doués peuvent construire, c'est comme du roman, c'est du roman. Ça n'a pas de force, ça n'a pas de valeur, c'est l'Écriture seule qui nous fait connaître le vrai Christ Jésus. Il n'y a pas d'autre source. Or, l'Écriture n'en dit pas beaucoup. Nous allons devoir exploiter des indices. Nous allons devoir prolonger en pointillés les lignes que l'Écriture trace. Elle nous trace des lignes fermes, mais pour répondre à la question posée, il nous faut parfois aller un peu au-delà. Alors, il faut nous rappeler qu'il s'agit de pointillés. Ce que je vais vous dire, je crois que cela correspond à une étude sobre, sérieuse, respectueuse des données de la Bible, mais c'est quand même pas indiscutable. Je ne prétends pas que ce soit indiscutable, c'est sans garantie du gouvernement. Donc, sachez-le bien. Et le sujet est d'autant plus difficile que la situation de Jésus, il faut bien s'en rendre compte, est absolument unique. Jamais dans tout l'univers, il n'a existé un autre être avec deux natures ensemble comme lui. Une nature, c'est l'ensemble des propriétés qui caractérisent un être, ce qu'il est. Bon, eh bien chaque être a sa nature. Jésus est absolument le seul, il n'y en a jamais eu d'autre et il n'y en aura jamais d'autre, et le seul qui ait été deux êtres différents en un seul. Même les analogies les plus proches sont encore extrêmement lointaines par rapport à cette unicité. Jésus seul est à la fois Dieu avec la nature de Dieu et homme avec la nature de l'homme sans que ça se mélange. Seul Dieu pouvait le faire. Je crois que je peux le dire avec assurance, il est inconcevable qu'une créature ait la nature d'une autre créature en même temps que la sienne. C'est pas possible. Ou bien elle a sa nature, ou bien elle en a une autre. Mais seul Dieu, parce que c'est en lui que nous sommes tout ce que nous sommes, que toute créature a son être. Parce qu'il est aussi plus intérieur à toute créature que le plus intime d'elle-même. Dieu est dans la profondeur de l'être de tout ce qu'il a créé. Dieu, parce qu'il est Dieu, le Créateur, est souverainement intérieur, a pu s'unir de cette façon à la créature. Et pas n'importe quelle créature. Je ne pense pas que même qu'il aurait pu le faire avec n'importe quelle créature, mais c'est la créature faite en son image. Grâce à cette affinité particulière de la créature faite en son image qu'est l'homme, Dieu a pu faire coexister en lui les deux natures, la sienne propre et celle de l'humanité. Mais c'est le cas unique. Et ça veut dire que nous ne pouvons pas imaginer comment ça s'est passé. En tout cas, pas facilement. Parce que lorsque nous imaginons les choses, que nous essayons de les concevoir, nous le faisons toujours par comparaison. nous saisissons une situation étrangère parce qu'elle a de ressemblant avec ce que nous connaissons déjà. Nous transposons comme ça. Mais là, c'est absolument unique. Et donc, le sujet est difficile pour cette raison. Mais grâce aux indices du Nouveau Testament, en prolongeant en pointillé les lignes qu'on y trouve, je pense qu'on peut dire quand même quelque chose. J'ai accepté de vous présenter le sujet. Et je résume en 5 points ce que je retire du Nouveau Testament. Je vais vous annoncer ces 5 points, comme ça vous verrez à quel rythme nous progressons. 5 façons de caractériser la relation de Jésus à son Père. Relation prioritaire, relation évolutive, relation intime, relation biblique. Alors là, à ce stade, vous ne pouvez pas très bien comprendre ce que je mets sous ce titre, mais vous allez comprendre dans un instant. Et puis une relation jusqu'à la croix. Voilà les 5 points que je vais tenter de développer. Relation prioritaire. Le Père, manifestement, d'après les données du Nouveau Testament, est celui qui compte par-dessus tout pour Jésus. La pensée du Père le possède, pourrait-on dire. Il parle de lui constamment. Je serais presque tenté de dire même que la pensée du Père l'obsède, mais c'est un mot qui est un petit peu péjoratif, qui peut suggérer quelque chose de maladif. Or, au contraire, chez Jésus, la pensée du Père lui donne un équilibre parfait, lui permet d'avancer avec une liberté sereine, une autorité tranquille. Mais c'est une présence constante que la pensée du Père pour lui. Et tout spécialement la volonté du Père. Il y fait souvent référence. Et il dit une fois que sa nourriture est de faire la volonté de Dieu qui l'a envoyé, du Père. Vous vous rappelez l'épisode, c'est dans l'évangile de Jean, l'histoire qui concerne la Samaritaine. Jésus, fatigué du voyage, s'est assis au bord d'un puits, et les disciples sont partis chercher des vivres dans le village. Donc, probablement, le petit groupe n'avait pas mangé depuis un moment. Et puis, la Samaritaine vient tirer de l'eau. Jésus engage la conversation avec elle, la conduit à la confession de son péché, la découverte de la grâce de Dieu. Et les disciples reviennent, ils sont tout étonnés de voir qu'il parle comme ça avec une femme, parce que Jésus était tout à fait libre à l'égard des coutumes, mais en même temps, c'était pas à jet continu. Il ne renversait pas tous les usages établis non plus. Il ne choquait pas pour choquer. Il était libre, mais il n'était pas provocateur. Ils sont donc étonnés. Et puis, ils ramènent de quoi manger, mais Jésus leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Pourquoi? Quelqu'un est venu t'apporter à manger? Et c'est là qu'il leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Très, très belle parole. Et elle correspond tout à fait à ce qu'on lit dans tous les évangiles, c'est la préoccupation constante et la joie de Jésus de faire la volonté de son Père. Et de même, dans ses réflexions, j'ai été très frappé, il y a longtemps déjà, hein, mais je vous le présente aujourd'hui, de voir comment Jésus s'y prend dans sa discussion avec les Sadducéens sur la résurrection, comme cela nous est raconté au chapitre 22 de l'évangile de Matthieu. Vous vous rappelez que les Sadducéens, qui étaient un des partis dans le judaïsme, niaient la résurrection. Et ils racontent à Jésus une histoire qu'ils avaient inventée pour l'embarrasser. Parce qu'ils savaient que Jésus, comme les pharisiens d'ailleurs, enseignait la résurrection des morts. Ils s'en moquaient, eux, les Sadducéens, et ils avaient inventé une petite histoire pour embarrasser Jésus. L'histoire de la femme qui, selon le commandement de Moïse, lorsque son premier mari meurt, épouse le frère, puisqu'il n'y a pas eu d'enfant, et ainsi de suite, jusqu'au septième. c'est l'occasion de poser la question ricanante. Et alors, la résurrection de qui sera-t-elle la femme? Puisqu'elle a eu les sept. Et Jésus leur réplique. Et alors, je trouve très significatif la manière dont Jésus fonde la foi dans la résurrection. Nous aurions, et nous n'aurons pas entièrement tort, hein, nous aurions sans doute souligné l'importance de la résurrection, c'est comme ça que font souvent les théologiens, par une analyse de l'être humain. Il faut la résurrection parce que le corps, c'est vraiment une dimension essentielle de la personne humaine, donc nous ne pouvons pas être pleinement sauvés si notre corps ne participe pas au salut. Donc nous justifions la résurrection par l'importance du corps dans l'analyse de ce qu'est l'être humain. Jésus, pas du tout dans ce passage. Jésus réplique tout de suite en se référant à Dieu. Vous êtes dans l'erreur parce que vous ignorez les Écritures et la puissance de Dieu. Et après ça, il dit, et la preuve que les morts ressuscitent, c'est le nom que Dieu lui-même a voulu prendre dans l'Ancien Testament. Je paraphrase un tout petit peu, mais c'est ça, vous connaissez le passage. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Or, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. C'est à cause du caractère de Dieu, du fait que Dieu est le Dieu qui s'est lié aux hommes dans sa grâce et qu'il est le Dieu de la vie et donc des vivants, c'est en s'appuyant là-dessus que Jésus fonde la foi en la résurrection. Vous voyez comment tout de suite son regard se porte vers le Père et la manière d'être du Père, tout ce qui peut être dit du Père. Donc, premier point, relation prioritaire dans la vie, la pensée de Jésus. Deuxième point, relation évolutive, c'est-à-dire qui change dans le temps, qui se développe dans le temps, qui connaît une évolution, un progrès, un développement. C'est la loi de la créature, la loi de l'humanité, que de changer dans le temps. Dès que nous y réfléchissons, nous nous rendons compte à quel point la loi du temps régit ce que nous sommes. Nous avons tous commencé dans le temps par être un tout petit rien, quelques cellules. Et c'est avec le temps que nous avons grandi pour atteindre ce que nous sommes aujourd'hui. Et cette loi de la croissance dans le temps est une loi qui joue pour notre corps, mais qui joue aussi pour notre esprit. Nous avons tous eu besoin de temps pour apprendre ce que nous savons aujourd'hui, pour mûrir comme nous avons mûri jusqu'à ce point où nous sommes. Nous sommes soumis au temps. Or, Jésus aussi, vrai homme, s'est soumis au temps. Et donc, sa relation au Père, qui a été sa relation aussi comme homme, a été soumise au temps. Cela nous est formellement attesté dans un verset très impressionnant, celui de l'évangile de Luc, chapitre 2 et verset 52, qui nous dit de l'enfant Jésus qu'il croissait ou grandissait en sagesse, et la sagesse englobe aussi la connaissance, hein, souvent dans le langage de la Bible, en sagesse, en stature, il grandissait, hein, il est passé sans doute d'un mètre à un mètre vingt et un mètre, etc., avec simplement le fil du temps, le cours du temps, en stature et en grâce même, devant Dieu et devant les hommes. Luc 2, 52 est une déclaration tout à fait formelle pour nous dire que, sous l'aspect spirituel aussi, Jésus a évolué, a grandi, progressé, donc dans sa relation au Père, car c'était l'essentiel de sa vie spirituelle, comme nous l'avons déjà vu. Il y a un autre verset qui est très impressionnant aussi, dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 5, qui nous dit que Jésus bien qu'il fût fils, a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Il a appris l'obéissance. Non pas qu'il ait jamais été désobéissant, mais il a dû apprendre quand même. Il y a eu une croissance, il y a eu une progression. Donc, je crois que nous sommes obligés de dire que la relation qu'il avait à son père a été évolutive. Alors, à mon avis, si je scrute les Écritures, j'arrive à cette conclusion, il est difficile de trouver des changements, donc une évolution bien nette, dans sa relation au père au cours de son ministère. Il y a eu des moments clés pour lui dans son ministère. Il a eu son baptême, qu'il a introduit dans le ministère, avec le signe que le Père lui a donné, en le désignant du ciel, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, avec la manière sensible dont le Saint-Esprit s'est manifesté, descendant sur lui. Il y a eu le moment de la tentation, du combat contre la tentation dans le désert. » Et il y a eu d'autres combats, et en particulier le combat en Gethsémané, qui est une sorte de symétrique à la fin de son ministère, de ce combat dans la tentation au désert, au début. Il y a eu donc des moments clés, mais moi je n'ai pas l'impression que la relation de Jésus avec le Père ait changé au cours de ces 3 années en gros. Il me semble que Jésus a abordé son ministère déjà avec une pleine maturité, déjà avec la connaissance très, très ferme de ce qu'il devait faire, qu'il domine les circonstances, qu'il sait où il va depuis le début, et donc que ce n'est pas là qu'on le rencontre une évolution bien nette. Certains ont prétendu trouver, mais moi, ils ne m'ont pas convaincu en tout cas. Donc il me semble que nous n'avons pas d'évolution au cours de ces 3 ans, mais c'est parce qu'il a abordé ce ministère bien préparé. Il me semble que la clé de ce qu'on appelle les années obscures de Jésus, pourquoi est-il resté une quinzaine d'années dans ce petit village, enfin, disons ce petit bourg de Nazareth, à scier des poutres, quelle occupation pour le sauveur du monde, pourquoi ces années, alors que le besoin était si urgent. Nous avons toujours besoin que. Nous avons toujours l'impression que le besoin est tellement urgent et nous n'avons pas tort. Pourquoi donc Jésus a-t-il attendu d'avoir environ 30 ans? Et probablement c'était un peu plus, d'après les recoupements qu'on peut faire, hein, c'est environ, dit Luc, environ 30 ans. Je crois que Jésus a attendu d'être tout à fait préparé et qu'il a mûri dans la compréhension même de ce qu'il devait faire et sa connaissance du Père. Donc, ce caractère évolutif de sa relation au Père nous explique ce qui pourrait autrement nous paraître une énigme, l'énigme de ces années dont on ne raconte rien. Troisième point, relation intime. Nous avons lu dans les paroles que Matthieu 11 nous rapporte qu'il y a connaissance mutuelle entre le Père et le Fils, comme nulle créature, personne d'autre ne peut connaître. Nul ne connaît le Père, le Fils si ce n'est le Père. Nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et puis celui à qui le Fils veut le révéler, il y a une grâce d'association et d'intégration en quelque sorte dans la relation qu'a le Fils avec le Père, nous y reviendrons à la fin, mais il y a une connaissance mutuelle là qui est tout à fait particulière, unique, entre le Père et le Fils, d'après ce texte formel. Elle marque l'intimité entre le Père et le Fils. Le mot qui est traduit connaître, c'est un mot dans l'original qui a un préfixe d'insistance. Donc ça pourrait éventuellement se paraphraser connaître profondément, connaître exactement. Nul ne connaît profondément, exactement le Fils, si ce n'est le Père, nul ne connaît exactement, profondément, le Père, si ce n'est le Fils. Donc, relation de connaissance mutuelle, relation d'amour réciproque. Tout spécialement dans l'évangile de Jean, Jésus souligne que le Père aime le Fils, qu'il est aimé du Père. Chapitre 2, verset 35, chapitre 5, verset 20, etc. Et au chapitre 14, il souligne lui-même qu'il aime le Père. Le Père aime le Fils aime le Père. Cela fait partie de cette relation d'intimité qui nous est attestée. Alors cette relation de connaissance intime et d'amour se démontre d'abord dans la place qu'a la prière dans la vie de Jésus. Elle est mentionnée surtout au moment clé du ministère de Jésus, par exemple quand il doit choisir les apôtres, choisir les 12. Là, il passe longtemps dans la prière. Nous ne savons pas dans le quotidien quel était le temps qu'il consacrait à la prière, et de toute façon, rappelons-nous que c'est pas une affaire de temps. Bon, bien sûr, 10 secondes, ça ne suffit pas. Nous sommes ainsi faits que 10 secondes ne peuvent pas nous permettre d'être vraiment dans la communion de notre Dieu. Mais ce n'est pas à chronométrer, hein, simplement, la durée de la prière. Et lorsque ses disciples ont demandé à Jésus de leur apprendre à prier, il leur a appris une prière beaucoup plus brève que les prières que les rabbins apprenaient à leurs disciples. Et il les a avertis, c'est pas en faisant de longues prières qu'on est exaucé. Ça dépend pas de l'abondance des paroles. Donc, nous n'avons pas à nous soucier spécialement de la durée. Était-ce 1 heure, était-ce 2 heures, était-ce 5 heures par jour ou par nuit? Cela importe relativement peu, mais à coup sûr, la prière avait dans la vie de Jésus et constamment une grande place. Nous pouvons être pratiquement sûrs par ce qui perce de cette vie de prière de Jésus, qu'elle faisait ses délices. C'était là vraiment sa joie, quand il pouvait se tourner vers le Père, passer du temps simplement en sa présence, avec lui. Et la prière, c'est une prière que nous avons lue au verset 25 du chapitre 11, est tout à fait dans cette tonalité. Je te loue, Père. Et je te loue, c'est un terme qui pourrait aussi c'est d'après son étymologie, se traduire, je suis bien d'accord et j'admire. Je te loue, Père, de voir comment tu disposes les choses, comment tu réalises tes plans. C'est merveilleux comme tu fais. Jésus est transporté de joie de voir quelles sont les décisions bienveillantes que le Père prend, comment il résiste aux orgueilleux, ceux qui se prétendent sages et intelligents, comment il accorde sa grâce aux humbles, il se fait connaître de ceux qui ne se prennent pas pour des grands, mais comme des petits. Jésus adhère à ce qu'il voit faire au Père, et il le lui dit avec jubilation. Je te loue, Père. C'est le délice qui marque cette intimité de Jésus avec le Père. Peut-être aussi pouvons-nous penser qu'il y avait quelque chose un peu comme la recharge de batterie. Jésus avait un ministère épuisant. Il était constamment sollicité par le public. Il devait parler des heures et des heures, et c'est fatigant. Hein. J'avais un professeur de prédication qui prétendait, je ne sais pas comment il l'avait mesuré, mais qu'une heure de prédication présentait autant que 8 heures d'un bon travail ordinaire. En dépense, alors d'énergie non pas strictement physique, mais nerveuse en tout cas. En tout cas, Jésus, donc, avait un ministère qui était épuisant. Et il me semble qu'on peut voir qu'il se consacrait à la prière comme on recharge ses batteries. Parce qu'il en avait besoin, son humanité, ses forces étaient aussi limitées et à renouveler. Oui. Donc, place de la prière avec certitude de l'exaucement devant le tombeau de Lazare, il dit « Je sais que tu m'exauces toujours ». Et puis dans cette prière et ailleurs aussi, cette relation intime se traduit dans le choix de l'appellation que Jésus préfère pour Dieu. Il l'appelle Père, et tout spécialement mon Père, très très souvent. Alors dans le judaïsme, le nom de Père n'était pas inconnu pour Dieu, et on disait surtout notre Père, mais cette manière de parler de Jésus, mon Père, est vraiment très spéciale. Et on a remarqué, c'est je crois significatif, que Jésus n'a jamais dit notre Père. Ça c'est un trait que souvent les gens ignorent. Jésus a appris à ses disciples, vous direz, notre Père. Mais autrement, quand il est avec ses disciples, se le mettant lui-même avec eux, il ne dit pas notre Père. Il dit mon Père et votre Père. C'est ou mon ou votre. Même encore quand il parle à Marie-Madeleine, le jour de sa résurrection, il leur dit, va dire à mes frères que je monte vers mon Père et votre Père, mon Dieu et votre Dieu. Oui. Jésus marque le caractère unique de son intimité avec le Père, par cette façon de parler. Et on a beaucoup épilogué sur un usage qui semble avoir été tout à fait inhabituel au premier siècle de notre ère, au temps de Jésus, dans le judaïsme. On n'a pas d'autre exemple, vraiment. Alors, on ne peut pas être absolument sûr que personne n'ait employé le mot comme Jésus l'a fait, mais ça paraît assez probable. Jésus a employé le mot « Abba » pour parler de son Père. Or, les Juifs ne semblaient pas l'avoir employé pour Dieu. Ils disaient « Notre Père, avis-nous », mais non pas « Abba », qui est une forme araméenne. Alors c'est très intéressant à étudier. Il y a une théorie qui a beaucoup circulé et qui est fausse, sur laquelle je vous avertis, à savoir que Abba c'est le langage des petits-enfants et que c'est papa. C'est pas vrai. Le savant allemand qui a fait le plus pour diffuser cette idée-là, très érudit, a reconnu, sur le tard, mais a reconnu qu'il s'était trompé. J'ai, dans une édition de sa théologie du Nouveau Testament, il y a une note où il reconnaît ça. Non, ce n'est pas un langage de petite enfance, ce n'est pas donc papa avec cette connotation-là. Et d'ailleurs, je dirais, nous, on en a la preuve dans le Nouveau Testament, parce que Paul traduit cet Abba. Il dit que par l'Esprit de Jésus-Christ, nous disons Abba, Père. Et il traduit « père », pas « terre hein, » en grec. Or, il y a un mot en grec pour « papa », c'est « papas ». Il existait, il est dans mon dictionnaire grec. Oui. Donc, si ça avait voulu dire « papa », Paul aurait mis « papas » et non pas « pater ». Donc, c'est pas « papa ». Mais, on n'est quand même pas si loin avec cette idée que c'est « papa ». La nuance de Abba, et c'est pour ça qu'on ne le trouve pas, ce mot, dans les prières des Juifs en général, celles qui sont conservées pour le premier siècle, c'était le mot hébreu pour père, mais pas la forme Abba, qui était réservée aux relations familiales. Le mot père, ça pouvait s'employer pour être un titre d'honneur dans la vie civile, pour un professeur, pour ce qui reste encore un petit peu avec les révérends pères. Ça pouvait s'employer sans connotation familiale. Alors que Abba semble avoir été réservé aux relations vraiment d'un fils avec son père. Même si c'est un fils adulte, etc. Vous voyez, ce n'est pas le langage des petits-enfants, mais c'est un langage familial. Et donc, il semble bien que si Jésus l'a retenu, peut-être lui le seul ou le premier, c'est qu'il voulait marquer que sa relation à Dieu était une relation de type familial. C'était vraiment comme le propre fils de celui qu'il connaissait comme un père dans l'amour familial qu'il s'adressait à Dieu. Je pense que c'est la bonne interprétation et ce qui est sûr, c'est que la chose a frappé, parce qu'on a retenu cette forme araméenne, Abba. Le Nouveau Testament a été écrit en grec, mais on a gardé ce mot. Il y a juste quelques mots comme ça, Alléluia, Amen, Abba, qui ont été gardés, qui ne viennent pas du grec, qui n'ont pas été traduits non plus. Enfin, Paul a ajouté la traduction, mais il a gardé quand même cet Abba, parce qu'il était tellement typique de la relation intime de Jésus avec son Père. Donc, troisième trait, relation intime. Quatrième trait, je l'ai intitulé relation biblique. Là, évidemment, c'est très vague comme sous-titre. Je veux dire que c'était une relation imprégnée par les Écritures. Qui était toute modelée par la médiation, par le rôle intermédiaire des écrits bibliques. Et là, nous touchons quelque chose qui montre bien l'humanité véritable de notre Seigneur Jésus. Nous avons parfois tendance, je crois, sans y réfléchir vraiment, à nous dire que si Jésus cite les Écritures, bon, évidemment, il les connaissait toutes puisqu'il est Dieu. Hein. Et nous ne nous rendons pas compte que nous avons à le considérer vraiment comme homme. Puisqu'il a grandi en sagesse, connaissance, puisqu'il a appris. Je crois que nous n'avons pas le droit de penser que sa connaissance des Écritures était automatique. Que bien sûr, il savait tout ça comme ça, dans son humanité. Nous n'avons pas à penser que s'il l'a mise en œuvre, s'il l'a citée ensuite, c'était juste pour la galerie, pour les autres. Puisqu'il a grandi lui-même en sagesse, connaissance et qu'il a appris, nous devons conclure que s'il la cite si souvent la Bible, et avec toute une réflexion attachée, des arguments, c'est qu'il y avait passé du temps lui-même. C'est qu'il avait médité les Écritures pour lui-même. C'est qu'il avait étudié les Écritures pour lui-même. Il avait comparé les textes, qu'il avait conclu quel était leur essence. Dès lors, je crois que nous devons dire que sa connaissance du Père, sa relation avec le Père, a été formée, structurée, précisée par la parole de Dieu dans la Bible. Il allait à la Bible pour entendre la parole du Père. Le Père lui parlait là, et le Père lui disait quel il est et quelle était la mission qu'il lui assignait. Le Père lui parlait, et Jésus allait aux Écritures pour entendre le Père et apprendre à le connaître mieux. Il a dit que l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il a vécu lui-même de ces paroles qui étaient sorties de la bouche de Dieu. Il a discerné par le moyen des Écritures que Dieu était parfaitement saint, parce qu'il a lu « Je suis saint, vous serez saint », parce qu'il a lu que Dieu a les yeux trop purs pour voir le mal. Dans l'Ancien Testament qu'il avait, il a lu que Dieu est un Dieu compatissant, riche en grâce, qui préfère l'obéissance au sacrifice, qui prend plaisir à la miséricorde plus qu'au sacrifice. Il a cité ce texte. Il a su par les Écritures que c'est Dieu qui est souverain, que Dieu est au ciel et qu'il fait tout ce qu'il veut, comme dit un psaume. Alors je crois qu'il faut bien saisir que ce progrès de connaissance de Jésus n'a pas été un progrès à partir de l'ignorance ou de l'erreur, il n'a jamais été dans l'erreur, pour accéder à la vérité. Mais ce qui était vague, imprécis, qui était déjà part de son expérience du Père, s'est précisé, clarifié par l'étude des Écritures. Je crois qu'il nous faut nous représenter les choses de la manière suivante. Jésus sans péché, depuis sa petite enfance, moi je crois que ça compte déjà dans la vie intra-utérine, déjà avant la naissance. On sait maintenant que le fœtus entend la musique, il est sensible, la qualité des voix qu'il reconnaîtra plus tard, etc. Le fœtus a déjà une certaine activité intellectuel, si l'on peut l'appeler comme ça. Donc je pense que dès la vie fœtale, Jésus a vécu, et ça c'est la grande différence avec tous les autres humains, dans la communion du Père, baigné par la présence aimante du Père. Et au plan expérimental, il a toujours connu le Père. Il a connu comme celui avec qui il était en relation positive. Mais cette connaissance, chez l'enfant, reste très, très brumeuse, non formulée. Voyez. Elle ne peut pas faire l'objet d'un énoncé clair. Et c'est dans la clarification et la structuration progressive de cette connaissance dont Jésus a joui d'expérience par sa communion avec le Père depuis le début, que les Écritures ont joué un rôle déterminant. Il a lu les Écritures pour lui-même, pour progresser dans la connaissance du Père. Puis pas seulement la connaissance du Père, mais dans la mesure où il connaissait le Père comme Père, il se connaissait lui-même comme Fils. Et je pense qu'on peut voir dans sa manière de citer l'Écriture que Jésus a peu discerné de manière précise le mystère de sa propre personne par les Écritures. Qui est-ce que je suis ? Le Père me fait goûter sa vie et son amour comme ça, mais qu'est-ce que je suis ? Les Écritures le montrent. Je suis celui qu'il a associé dès le commencement à son œuvre. Celui avec qui il partage son trône. Il s'est rendu compte en lisant le psaume 110 que le fils de David, et il était lui-même de la lignée de David, que le fils de David doit être bien plus que David. Parce que David l'appelle son Seigneur. David dit le Seigneur, Dieu donc, a dit à mon Seigneur. Alors, un père en Israël n'appelle pas son fils son Seigneur, si c'est simplement son fils. Donc Jésus s'est rendu compte qu'il y avait là un mystère de sa propre personne. Il a compris qu'il était la sagesse de Dieu. Il s'est appelé la sagesse. Il est la sagesse de Dieu venue en personne, cette sagesse qui était au commencement auprès de lui, qui a été maître d'œuvre de la création, d'après le chapitre 8 des Proverbes. Je crois qu'on peut suivre, dans la manière dont Jésus a cité l'Ancien Testament, la progression de sa propre compréhension de lui-même et de sa mission. Car c'est ça qui est finalement le plus émouvant, me semble-t-il. Je crois que nous avons à nous représenter Jésus, alors je pense dans ces années obscures, de 10 à 30 ans, progressant dans la lecture des Écritures pour reconnaître quelle est la mission que le Père a prévu pour lui, quel est le chemin que le Père veut qu'il suive. Il s'est rendu compte en lisant Ésaïe 53 qu'il était venu pour donner sa vie en rançon pour une multitude, pour porter les péchés des pécheurs, pour les délivrer ainsi de la perdition et de la condamnation. Jésus, imaginez Jésus en train de lire ces textes et disant « Mais c'est moi, donc c'est cela que je vais devoir vivre, c'est cela que je vais devoir faire. » La relation de Jésus avec le Père, je crois que nous devons le dire, a été imprégnée par les Écritures. Et s'il dit qu'il faut qu'il accomplisse la volonté du Père, il dit du même coup, c'est parce que ça va ensemble, il faut que les Écritures s'accomplissent. Parce que les Écritures sont la parole du Père qui lui indique le chemin. Et là, je suis presque déjà à mon cinquième point, une relation jusqu'à la croix. Car la mission que le Père a confiée à Jésus n'est pas seulement de le révéler par l'enseignement, par la parfaite expression de lui-même dans sa vie sainte que Jésus a donnée du Père. Pas seulement de le révéler, mais de réconcilier le monde avec lui-même, de sauver les hommes qui, même avec une révélation parfaite de Dieu, restent liés par leur péché et assujettis à la condamnation. Donc la mission de Jésus n'est pas seulement d'apporter cette lumière de la connaissance, mais d'apporter la libération du péché même, de lever l'obstacle qu'il constitue entre Dieu et l'humanité. Et il dit, le Père m'aime parce que je donne ma vie pour mes brebis. Jean 10, 17. Et sur ce chemin, vous savez ce qui est arrivé. Tout au long, depuis la vie fœtale, depuis le sein de Marie, c'est la communion avec le Père qui a fait la joie et la force de Jésus. Il l'a connu sans mélange, sans interruption, ce qu'aucun autre homme, à cause du péché, n'a connu. Ça a été vraiment la base pour toute sa vie. Mais sur la croix, vous savez quel cri il a poussé. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Ce n'était pas une défaillance de sa foi. Nous pouvons en être sûrs parce que c'est un verset de psaume. Jésus citait un psaume. Donc il montrait par là qu'il restait attaché à la parole de Dieu, à la parole du Père, qu'il était en train d'accomplir la mission que le Père lui avait donnée. C'était un cri de foi, puisque c'était une parole d'écriture qu'il citait. Et le psaume s'achève par une vision qui implique la résurrection. Donc ce n'était pas une défaillance de la foi de Jésus, mais c'était bien l'expression de l'expérience qu'il faisait. C'était vraiment la traduction de ce qu'il éprouvait à ce moment-là. Je crois que nous sommes obligés de dire que cette communion qui lui a été son bien le plus précieux tout au long de sa vie, il ne l'a plus goûtée à la croix. Qu'à ce moment-là, le visage aimant du Père s'est dérobé à ses yeux, parce qu'il était couvert du péché du monde, couvert de notre péché. Parce qu'il était condamné à notre place, il n'a plus ressenti à quel point le Père était là avec lui. Le Père était là avec lui. Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Ça n'a pas été une déchirure de la divinité, mais il a souffert. C'est sans doute cela qui lui a été le plus pénible dans toutes ses souffrances. Il a souffert de ne plus avoir ce qui était le délice de son âme constamment. Ce sentiment de la communion avec le Père. Et cela, c'était pour nous, comme nous le savons. Pour que nous cessions d'errer comme des chiens malades en nous mordant les uns les autres, en nous détruisant par notre orgueil et notre sottise. Pour que nous puissions être greffés, en quelque sorte, sur la relation de Jésus avec son Père. En lui, nous devenons aussi des fils et des filles, dans sa dépendance, mais vraiment, des fils et des filles, et nous pouvons dire, Abba, Père, à notre Dieu. Voilà le schéma que je crois pouvoir trouver dans les évangiles, et que je voulais vous communiquer. Maintenant, nous avons du temps, je crois, pour un libre entretien. C'est peut-être Pierre Richard qui va un peu le diriger, mais je vais essayer de répondre, si je peux, à ce que vous aurez envie de dire. Pour le moment, ce n'est pas le cas, mais... Oui.
J'arrive pas à comprendre comment, si on peut espérer aujourd'hui qu'un enfant de 12 ans, un homme grandit sans connaissance ou connaissent assez bien la Bible comme Jésus-Christ, parce que pour les scribes, c'était quelque chose d'exceptionnel. Mm-hmm. Et de rencontrer ce jeune enfant qui connaît si bien la Bible. Mm-hmm. Est-ce que cette capacité de comprendre ce que les Écritures est donnée à un enfant de 12 ans? Est-ce qu'un homme à 12 ans, intellectuellement, spirituellement, il est apte à comprendre et expliquer les Écritures comme Jésus-Christ?
Si nous lisons ce qui est dit dans l'évangile de Luc, qui est le seul à nous en parler, je ne crois pas que nous ayons quelque chose de si éloigné de ce qu'un enfant doué et qui vit dans la communion du Seigneur, à 12 ans et il y en a, peut connaître aujourd'hui en fait. Si on lit ici, on nous dit que les parents de Jésus, au bout de 3 jours, le trouvèrent, verset 46, hein, Luc 2, 46, le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les questionnant. Tous ceux qui l'entendaient étaient surpris de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, furent saisis d'étonnement, etc. C'est tout ce qui est dit là. Moi, je crois que ce qui est dit là, on peut très bien imaginer qu'un enfant de 12 ans très éveillé et intelligent aujourd'hui, qui a déjà lu sa Bible, il n'est pas en train d'enseigner les docteurs, là. Ils sont surpris par son intelligence et ses réponses, mais il les questionne, il les écoute et les questionne, d'après le texte. Donc, il ne faut pas se faire une image de la scène qui décroche complètement par rapport à l'évolution d'un être humain. Je ne pense pas qu'il y ait eu un miracle exceptionnel à cet endroit par rapport à la connaissance des Écritures de Jésus. Vous voyez comment je réponds à votre question? En fait, je pense qu'elle a pour tremplin une image un peu trop gonflée, exaltée de ce que Jésus a fait ce jour-là. Ou ces 3 jours-là. Voilà ce qui serait ma réponse. Donc il est sûr que dans les conditions de l'incarnation, Dieu avait choisi que humainement Jésus soit très doué, parce que c'est dans son humanité, il était certainement très intelligent, avec un don poétique remarquable, un don de parole, une grande robustesse. Enfin, vous voyez, ça ne le sort pas de l'humanité. Il y a d'autres individus dans l'humanité qui ont reçu des dons très remarquables, mais on pourrait se dire, mais ce serait finalement très abstrait. Dans son humiliation, Dieu aurait pu choisir de s'incarner dans un homme avec un quotient intellectuel de 60, ou etc. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Il l'a choisi autrement, et je pense que nous pouvons admirer la sagesse de Dieu à ce propos. Vous suivez ce que je veux dire là? C'est l'occasion de se méfier un petit peu, ça, je me fais cette remarque en marge, d'une façon de penser qui a l'air très très pieuse, mais c'est finalement abstrait. Finalement, on joue comme avec des idées au lieu de se rapporter à ce que Dieu a fait. Dire Dieu s'humilie, alors Dieu s'humilie, alors donc il faut qu'il aille le plus bas possible. Si on dit ça, donc il aurait dû s'humilier et s'incarner dans un débile paralytique, enfin je ne sais pas quoi. Dieu n'a pas fait comme ça. C'est pas un jeu d'idées où on renverse la puissance en impuissance, etc. Il faut nous rapporter à ce que Dieu a fait dans la Bible selon sa sagesse. Il a tenu compte de beaucoup de choses, il s'est humilié, mais aussi il y avait une mission à remplir, il y avait aussi un idéal d'humanité à réaliser pour qu'il soit notre modèle. Et Dieu a tenu compte de tout ça dans sa sagesse, et il nous faut nous rapporter à ce qu'il a fait d'après la Bible. Voilà, oui, peut-être que les autres vont en préparer pendant ce temps-là.